Invective de Cicéron contre Salluste. Le suprême bonheur pour vous, Salluste, consiste à mener une vie conforme à vos paroles, et votre bouche n'a nommé aucune infamie dont vous ne vous soyez souillé depuis votre première jeunesse, en sorte que l'on peut regarder votre discours comme le tableau fidèle de vos mœurs. En effet, il est impossible de vivre comme vous vivez, et de ne point parler comme vous faites, et une bouche capable d'un tel langage ne saurait être l'organe d'un cœur pur. De quel côté, père conscrit, dois-je d'abord porter mes regards? Par où dois-je commencer? La tâche qui m'est imposée est d'autant plus pénible que chacun de nous deux est mieux connu. Si je réponds aux calomnies atroces que Salluste vient de répandre sur ma vie publique et privée, je dois craindre le soupçon de vanité, et si je dévoile la turpitude de ses actions, de ses mœurs et de toute sa vie, je mériterai le honteux reproche que je viens de lui faire. Mais si quelquefois je m'y expose, ce n'est point à moi, c'est à celui qui m'a provoqué que vous devez imputer tout l'odieux. Je ferai en sorte de parler pour moi, sans vous fatiguer de mes propres éloges, et Salluste n'aura contre lui que le témoignage de la vérité. Je sais, père conscrit, que vous n'attendez pas de moi une réponse qui éveille votre curiosité, persuadé d'avance que vous n'entendrez rien de nouveau sur le compte de mon adversaire, mais que vous allez reconnaître toutes les accusations auxquelles vos oreilles, les miennes, celles mêmes de Salluste, sont accoutumées. Et ceci doit vous inspirer plus d'horreur de cet homme qui n'a jamais eu d'apprentissage dans le vice, et qui, dès le premier pas, s'est trouvé si avant dans la dépravation, que durant tout le cours de sa vie, il n'a pu ni ajouter lui-même à ses premiers dérèglements, ni trouver un être plus pervers que lui. Aussi cherche-t-il toujours, semblable à ces animaux immondes, à se rouler avec quelqu'un dans sa fange. Mais il se trompe. Ce n'est pas l'audace de la langue qui efface les souillures de la vie. Il est un genre de calomnie dont les traits, quand ils sont lancés contre les gens de bien, sont renvoyés par la conscience des auditeurs contre le calomniateur lui-même. Que si la vie de Salluste n'est plus présente à votre mémoire, vous devez vous en faire un tableau, non d'après ses discours, mais d'après la connaissance de ses mœurs. Peu de mots me suffiront pour vous les rappeler. Cette lutte, père conscrit, ne doit pas vous paraître inutile. Les inimitiés des particuliers ont souvent accru la force des États par l'impossibilité où elles mettent chaque citoyen de cacher au public son vrai caractère. Et d'abord, puisque Salluste ne connaît qu'une manière de compter les degrés de noblesse, je le prie de me dire si ces grands hommes dont il a fait mention, les Scipion, les Metellus, les Fabius, ont été proclamés par la renommée avant que leurs exploits et leurs vertus les eussent rendus célèbres. Si donc leur mérite personnel a été le premier titre de leur gloire et de leur noblesse, pourquoi ne pas nous juger d'après les mêmes règles, nous qui, à des fonctions remplies avec honneur, joignons des mœurs irréprochables? Voudriez-vous faire croire que vous descendez de ces grands hommes? S'il en était ainsi, on verrait alors quelques personnes rougir de votre turpitude. Quant à moi, l'éclat de ma vie rejaillira sur mes ancêtres, s'ils ont été inconnus jusqu'ici, que leur nom commence en moi. Et vous, par l'opprobre de votre conduite, vous avez répandu des pestes ténèbres sur vos pères, et quand bien même ils auraient été d'excellents citoyens, vous les auriez déjà fait tomber dans le plus profond oubli. Ne m'objectez donc plus vos anciens héros. Il est plus glorieux pour moi de m'attirer de la considération par mon propre mérite que de m'appuyer sur les vertus de mes ancêtres. Je serai ainsi le premier noble de ma famille, et je puis lui servir de modèle. Il n'est pas juste d'ailleurs, père conscrit, de me comparer avec ceux qui ne sont plus, et qui n'ont plus à craindre la haine ni l'envie. Il conviendrait mieux de me mettre en parallèle avec ceux qui, de notre temps, ont gouverné la République. Mais si j'ai poussé trop loin l'ambition dans la recherche des honneurs, Et je ne blâme pas cette ambition utile au peuple, dont je ne crains pas de me déclarer le premier partisan. Mais cette ambition funeste et illégale, dont Salluste est le plus ardent soutien, si j'ai fait voir ou trop de sévérité dans l'exercice de mes charges et dans la punition des crimes, ou trop de vigilance dans le gouvernement de Rome, et ce qu'il appelle proscription, il s'imagine sans doute que tous ses semblables n'auraient pu vivre en sûreté dans cette ville, et combien la République serait en meilleur état si, complice des citoyens pervers, il eût été alors traité comme eux. En est-il moins vrai que j'ai eu le droit d'écrire que Mars cède à la paix, moi qui, sans prendre les armes, sans quitter la loge pacifique, ai triomphé des armes et de la guerre. Et ne pouvais-je dire de Rome sous mon consulat, ô Rome fortunée, moi qui ai prévenu les discordes civiles en éteignant cette flamme qui allait dévorer nos remparts. Quoi ? Vous ne rougissez pas, homme inconstant et vain, de condamner des actions dont vous me faites un mérite dans vos histoires ? Est-il donc plus honteux, père conscrit, de mentir en écrivant qu'en parlant au milieu de cette assemblée ? Quant aux reproches que vous avez faits à ma jeunesse, je suis aussi éloigné de la pudicité, j'ose le dire, que vous de la chasteté. Mais pourquoi m'étendre sur vos vices ? De quelle imposture rougirez-vous après avoir su l'audace de me reprocher mon éloquence comme le fruit du crime ? C'est un secours qui aurait pu vous être utile à toutes les époques de votre vie coupable. Pensez-vous donc qu'un citoyen puisse bien servir sa patrie s'il n'a été formé par ses travaux et ses études ? Connaissez-vous un autre berceau, d'autres épreuves de la vertu et une nourriture plus féconde pour un esprit qui désire la gloire ? Mais il n'est pas étonnant, père conscrit, qu'un homme entièrement livré à la débauche et à la mollesse trouve de la nouveauté et quelque chose d'étrange dans ses nobles occupations. Vous attaquez ensuite avec une rage insensée mon épouse et ma fille, qui cependant ont été plus réservées avec les personnes d'un autre sexe que vous avec celles du vôtre. Ici du moins vous êtes adroit, et vous ne criez pas que je vous rende l'appareil. Il n'y a point de femme chez vous seule. Vous suffisez à la sévérité de mes reproches, et dans toute votre maison, personne ne vous surpasse en infamie. Mais vous vous êtes étrangement mépris en croyant me faire un crime de l'état de mes affaires domestiques. Ma fortune est bien au-dessous de ce qu'elle devrait être, mais plutôt Dieu qu'elle fût moindre encore. Combien il serait plus consolant pour moi de jouir de la société de mes amis que de me voir enrichi par leur testament. Vous dites, Salluste, que j'ai pris la fuite. J'ai cédé à la fureur d'un tribun du peuple. Oui, j'ai mieux aimé tout souffrir moi seul que d'exciter une guerre civile parmi les Romains. Mais quand cet insensé eut rempli une année tout entière de sa rage et de son délire, et que le calme eût succédé aux tempêtes qu'il avait soulevées, alors, sur un décret du Sénat, la République me ramena comme par la main et je rentrai dans ma patrie. Ce jour est à mes yeux le plus beau de ma vie, ce jour où le corps entier du Sénat, où le peuple romain vint au-devant de moi me féliciter de mon retour. C'est ainsi qu'ils jugèrent un lâche, toujours prêt à fuir, un avocat mercenaire. Et certes, il ne faut pas s'étonner si j'ai toujours obtenu l'amitié de tous les bons citoyens, car je me suis foin fait le serviteur et l'esclave d'un seul particulier, et c'est sur les dispositions de chacun pour le bien de l'État que j'ai réglé mon amitié ou ma haine. J'ai voulu sans cesse que la paix remportât sur tous les autres intérêts. Plusieurs ont flatté imprudemment des intérêts privés. Moi, je n'ai craint que les lois. Plusieurs ont voulu que l'on craignît leurs armes. Je n'ai jamais désiré le pouvoir que pour vous. Plusieurs d'entre vous, enorgueillis de leur puissance, ont fait usage de leur force contre vous-même. Ainsi, ne soyez pas étonnés si je n'ai jamais compté parmi mes amis que ceux qui ont été constamment les amis de la République. Je me repens ni d'avoir promis mes services à Vatinus, accusé, lorsqu'il les sollicitait, ni d'avoir loué les vertus de César. Ce sont là des titres de gloire pour un bon citoyen. Si vous prétendez m'en faire des crimes, vous célébrez l'indignation contre vous, sans vouloir me rendre odieux. J'en dirais davantage, père conscrit, si je parlais devant d'autres auditeurs et non devant vous, dont les conseils ont dirigé toutes mes actions. Mais quand les choses parlent d'elles-mêmes, qu'est-il besoin de si longs discours ? Il est temps maintenant, Salluste, d'en venir à votre personne même. Oh, je ne parlerai point de votre père, qui, n'eût-il jamais rien eu à se reprocher, n'aurait cependant rien pu faire de plus funeste à l'État que d'engendrer un fils tel que vous. Je ne veux même pas examiner les écarts de votre première jeunesse pour ne point paraître accuser la négligence de votre père, qui alors pouvait surveiller votre conduite. Voyons seulement votre adolescence. C'est en la dévoilant tout entière que l'on comprendra sans peine que vos infamies et vos turpitudes n'ont fait que répondre alors à celles de votre premier âge. Quand le trafic honteux de votre corps ne put suffire à vos incroyables profusions, et que votre âge se prêta moins à tous les désirs du vice, des passions fougueuses agitèrent tous vos sens, et vous éprouvâtes alors sur les autres ce que vous n'aviez point jugé déshonorant pour vous-même. Aussi, père conscrit, ne saurait-on dire s'il a accru sa fortune avec plus d'infamie qu'il ne l'a dissipée. Du vivant même de son père, il osa mettre en vente la maison paternelle et il la vendit. Peut-on douter qu'il ait avancé les jours de son père lorsque, de son vivant même, il disposait de tout comme d'un héritage? Mais il ne rougit pas de me demander qui habite la maison de Publius Crassus, lui qui ne pourrait pas dire qui occupe maintenant la maison de ses ancêtres. Mais, dira-t-on, c'est l'inexpérience de l'âge qui l'a égaré. Il s'est corrigé dans la suite. Non, mais il s'est réuni à la bande du sacrilège Nigidius. Deux fois on l'a vu traîner devant le tribunal des juges. Deux fois il a été près d'être condamné. Et s'il fut absous, ce n'est point à son innocence, c'est à la prévarication des juges qu'il le doit. La question, qui fut son premier pas dans les charges, ne lui attira que du mépris, et s'il fut admis dans le Sénat, c'est une nouvelle preuve que pour y entrer la sévérité des mœurs n'est pas une loi qu'on ne puisse enfreindre. Aussi, craignant que ces turpitudes ne fussent ignorées de vous, devenu l'opprobre de toutes les mères de famille, il a osé avouer un adultère et il n'a pas craint de profaner cette enceinte. Vivez, Salluste, comme il vous plaît. Suivez en tous vos caprices. Mais contentez-vous d'avoir votre conscience pour témoin de vos crimes et ne nous reprochez pas notre indulgence et notre sécurité. Nous veillons sur la chasteté de nos épouses, mais notre vigilance ne peut être assez active pour les garantir de vos attaques. Votre audace triomphe de vos précautions. Attendrons-nous quelque retenue dans ces paroles ou dans les actions d'un homme qui n'a pas rougi de faire l'aveu d'un adultère en votre présence? Si j'avais voulu, Salluste, ne vous rien répondre de moi-même, si je m'étais contenté de lire devant tout le monde cette note infamante que les deux censeurs, Appius Claudius et Lucius Pison, les plus intègres des hommes, prononcèrent légalement contre vous, n'en était-ce pas assez pour vous imprimer une tâche éternelle que tout le reste de votre vie ne pourrait effacer? Depuis cette revue du Sénat, on ne vous a plus rencontré, et peut-être vous êtes-vous jeté dans ce camp qui fut alors comme la sentine de la République. Mais ce même Salluste, qui durant la peine n'était pas même demeuré sénateur, une fois que la République fut opprimée par les armes et que l'on vit des exilés rentrer vainqueurs dans Rome, eut le droit de reparaître au Sénat après une seconde questure. Dans cet emploi, il regarda comme vénal tout ce qui trouvait quelque acheteur. Il suffisait qu'une chose lui convînt pour qu'elle fût juste et légitime à ses yeux. Ces déprédations furent-elles qu'il semblait regarder cette magistrature comme un butin fait sur l'ennemi? Et au sortir de la questure, où il s'était empressé de donner des gages à ce qui, la conformité des mœurs, avait fait ses amis, il fut enfin retenu dans le cortège du maître. Saluste a pardonné de droit à cette faction, où s'était réfugié comme dans un repère inaccessible tout ce qu'il y avait de gens impudiques et infâmes, d'assassins, de sacrilèges, de débiteurs, à Rome, dans les villes municipales, dans les colonies, dans l'Italie entière, où s'étaient rassemblés, pendant ces jours de trouble, tous ceux dont la réputation était perdue ou que leur vice avait signalé, tous ceux qui n'avaient d'autre qualité pour la guerre que la licence des mœurs et le désir des révolutions. Mais, dira-t-on, une fois devenu prêteur, sa conduite fut sage et irréprochable. Pendant qu'il a gouverné l'Afrique intérieure, les ravages qu'il a exercés dans sa province n'ont-ils pas fait regretter à nos alliés, au sein même de la paix, toutes les horreurs de la guerre? Il ne s'arrêta dans ses déprédations que lorsqu'il craignit d'être trompé par ce qu'il chargeait du transport, ou lorsque les vaisseaux manquèrent à ses rapines. Il pilla enfin un père conscrit autant qu'il voulut. Pour se mettre à couvert d'un jugement, il convint de 1 200 000 sesterces avec César. Et si vous prétendez que quelqu'un de ces détails soit faux, répondez hautement. Dites-nous par quels moyens, vous qui ne pouviez même pas racheter la maison paternelle, enrichie subitement comme dans un songe, vous avez acquis des jardins magnifiques, la maison de Tibur, de Caius César, et tant d'autres propriétés. Et vous osez demander pourquoi j'avais acheté la maison de Publius Crassus, lorsque vous possédez une ancienne maison de plaisance, dont César naguère était le possesseur. Dites-nous donc, je vous prie, comment, après avoir non pas mangé, mais dévoré votre patrimoine, vous êtes devenu tout à coup riche et puissant. Qui voudrait en effet vous choisir pour son héritier, vous que personne ne regarde même comme un ami qu'il puisse avouer, à moins qu'il ne vous ressemble? Mais ce sont peut-être les faits éclatants de vos aïeux qui vous enorgueillissent. S'il y a quelque ressemblance entre vous, leur vie ne peut offrir que des exemples de perversité et de crime. Peut-être aussi votre insolence vient-elle des honneurs que vous avez obtenu. Mais comment, Salluste, croyez-vous qu'il y ait autant de gloire à être fait 2 fois sénateur et 2 fois questeur qu'à être 2 fois consul et 2 fois triomphateur? Il faut n'avoir à craindre aucun reproche quand on veut se censurer la conduite d'un autre. On attaque ses concitoyens que lorsqu'on peut entendre des vérités dures d'une bouche étrangère. Mais vous, parasite de toutes les tables, vous que l'on a vu dans le premier âge, femme de tous les maris, puis mari de toutes les femmes, vous êtes la honte de tous les ordres et le triste monument de la guerre civile. En effet, qu'avons-nous eu à souffrir de plus odieux que votre présence dans cette assemblée? Cessez d'aiguiser contre les gens de bien votre langue audacieuse. Modérez les transports de cette fièvre de méchanceté. Gardez-vous de juger de chacun de nous d'après votre caractère. Ce caractère ne saurait vous procurer un ami. On croira donc que vous cherchez un ennemi. C'en est assez, père conscrit. J'ai remarqué souvent qu'on est bien plus vite fatigué d'entendre ce qui dévoile la honte d'autrui que ceux qui se sont eux-mêmes couverts de honte. Je dois donc avoir égard non pas à ce que Salluste mérite d'entendre, mais à ce que je puis dire sans me déshonorer.